France Culture.
Ceux qui entretiennent un rapport particulier avec le langage écrit, avec les livres, leur épaisseur charnelle et spirituelle le savent. Ceux qui ne lisent que rarement s'en souviennent aussi, parce que leur enfance fut éclairée par tel moment de découverte partagée ou d'illumination inattendue. Chacun, en réalité, en est secrètement persuadé. Il existe des textes qui nous construisent, nous marquent durablement, en un mot, nous font naître à nous-mêmes. Ces textes inaugurent un monde pour nous, ils nous prennent la main pour nous mener où nous ne savions pas que nous désirions nous rendre. Et au bout du chemin, c'est encore nous que nous rencontrons. Comme le formulait déjà le très grand poète persan Attar de Nishapur au XIIe siècle, « Ayant bu des mers entières, nous restons tout étonnés que nos lèvres soient encore aussi sèches que des plages et toujours cherchons la mer pour les y tremper, sans voir que nos lèvres sont les plages et que nous sommes la mer. » Au détour d'une page qui nous attendait, nous reconnaissons ces mots que nous aurions voulu écrire. 2. Nous apprenons un peu ce que nous sommes ou ce que nous aimerions devenir. René Char le dit autrement dans ses chants de Balandrane, « Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. » Chaïm Korsia, bonjour.
Bonjour.
Chaïm Korsia, c'est un très grand plaisir de vous recevoir dans Talmudic. Vous êtes l'actuel grand rabbin de France, ancien aumônier en chef du culte israélite des armées. Vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques, docteur en histoire et docteur en sciences de gestion. Le texte que je viens de lire est la première page de votre livre qui vient de sortir aux éditions Gallimard et qui s'intitule « Ma vie avec Edmond Flegg », un penseur, un écrivain dont nous avons commencé à parler la semaine dernière avec Jacqueline Cuche et Hector Sabot et auquel était consacré le colloque Edmond Flegg, « Nous de l'espérance », dont vous avez fait la conférence d'ouverture lundi dernier. Une page qui se poursuit par la confidence que parmi tous les textes que vous avez un jour pu fréquenter, aucun ne vous a autant ému, aucun texte ne vous a aussi profondément frappé que celui d'Edmond Flegg intitulé « Pourquoi je suis juif ?». Parlez-nous, si vous voulez bien, de ce texte et merci de nous dire en quoi ce texte d'Edmond Flegg fut pour vous un tel événement existentiel, Chaïm Korsia.
D'abord, merci d'avoir relu cette page. En la réentendant, je me disais, c'est vrai qu'on est construit par l'espérance de nos lectures. Donc successivement, j'ai voulu être Bob Moran, ce qui d'ailleurs a été une grande déception pour moi, parce que Bob Moran, le héros, non pas simplement d'Indochine, qui en a fait un tube, mais le héros de Henri Verne, Bob Moran mesurait 1m82. J'ai toujours rêvé de mesurer 1m82, malheureusement, j'ai pas atteint, loin s'en faut, cette taille. Ensuite, j'ai, comme tout le monde, rêvé sur les Trois Mousquetaires. J'étais pas D'Artagnan. J'étais Aramis. J'ai toujours aimé Aramis. D'abord, c'est celui qui reste le plus longtemps. Il est discret, très pudique sur ses désirs. C'est un prêtre. Je rêvais déjà peut-être d'être rabbin, j'en sais rien. En tout cas, j'ai toujours été proche d'Aramis. Après, on a tous Club des Cinq, on a tous des lectures d'enfance. Mais Flegg, présenté en fait par mon prof de français à l'école rabbinique, un bonhomme merveilleux, délicieux, qui habitait rue Lacépède dans le 5e, j'allais le voir à la maison, et qui s'appelait Monsieur Abramovitch. Il nous parlait de textes assez incroyables, qui n'avaient rien à voir avec notre formation. Au fond, il nous ouvrait à la curiosité des façons différentes de dire le monde. Autrement dit, aussi à la poésie. C'est lui qui m'a fait découvrir Paul Valéry et le cimetière marin. Entre ses pins palpite la mer toujours recommencée. Si lui me parle de ce texte, je regarde ce texte, je tombe amoureux de ce texte, je le présente au bac, alors qu'il n'est même pas au programme. Et bien sûr, l'examinateur me dit, mais enfin, il n'est pas au programme. Je dis, oui, mais j'aime tellement ce texte, c'est-à-dire, on va parler de ça. Et j'ai parlé du cimetière marin, parce que ce professeur m'a pas... Et quand il me parle de Flegg, avec ce poème tiré de Pourquoi je suis juif, vous voyez une forme d'interrogation. Au fond, être juif, c'est déjà se dire, pourquoi je suis juif ? Qu'est-ce que ça m'amène comme responsabilité, comme devoir, comme ethos? En quoi je suis comme les autres et que je porte quelque chose d'unique? C'est déjà une question énorme. Et lui, il y répond par l'universel. C'est ça qui est formidable. D'abord, l'universel, je suis juif, c'est les deux, ce sont les deux dernières strophes, Je suis juif parce que partout où pleure une souffrance, le juif pleure avec elle. Et je suis juif parce que partout où il y a de la désespérance, le juif espère. Autrement dit, il n'espère pas pour lui, il espère pour ceux qui n'espèrent plus. Il souffre pas pour lui, pour ceux qui souffrent. L'universel. Je suis juif parce que je suis universel. Et je voulais pas, je me suis jamais vu enfermé dans une identité. Vous savez bien que dans notre vie, on a plusieurs identités. Au fond, Fleck donne quelque chose d'universel qu'on va chercher dans ce que nous sommes personnellement, individuellement. Ben, c'est la définition du judaïsme. J'ai jamais trouvé de définition aussi juste du judaïsme.
J'ai dit il y a quelques instants que lundi dernier, vous avez ouvert le colloque Edmond Fleck, Nous de l'espérance, c'était à Strasbourg, que nous avions annoncé dimanche dernier avec Jacqueline Cluche et Hector Sabot, votre conférence s'intitulait Ma vie avec Edmond Fleck. Pour vous, si proche spirituellement d'Edmond Fleck, quelle importance a revêtu la tenue d'un tel colloque aujourd'hui? Quelle espérance pour vous porte-t-il pour l'avenir non seulement du judaïsme, mais du monde en général, Chaim Korsia?
D'abord, on a beaucoup d'événements autour d'Edmond Fleck. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre. C'est parce que Edmond Fleck a été inclus dans les commémorations nationales de 2024. Parce qu'il est né il y a exactement 150 ans, le 26 novembre 1874, de ce point de vue. Il est célébré par l'ensemble de la nation. Pas par les uns ou les autres, l'ensemble de la nation. Voilà pourquoi il y aura un colloque très important le 17 décembre prochain à l'Institut de France, dans la grande salle des séances. Mais le colloque de Strasbourg était essentiel. D'abord parce que je ne voulais pas que ce soit qu'un événement parisien. J'ai dû faire une dizaine de conférences, y compris au centre éponyme, à Paris, rue de l'Éperon. Mais à Strasbourg, c'était bouleversant parce que nous étions au premier étage. Au rez-de-chaussée, il y avait la grande cérémonie annuelle d'hommage pour... vous savez, Strasbourg a vécu quelque chose d'incroyable dans la Seconde Guerre mondiale. La mairie de Strasbourg, l'université de Strasbourg ont été délocalisées. La mairie de Strasbourg était à Périgueux, l'hôpital de Strasbourg était à Sarlat, l'université à Limoges. Toute la ville, la structure de la ville s'est déplacée. Ce qui fait d'ailleurs que la communauté juive aussi. Il y a des juifs d'Alsace qui ont fait souche en Dordogne. C'est assez émouvant. Je pense notamment à Rolf Hamel, qui était le président historique de cette communauté, et pour lequel on a, avec la maire de la ville, on a pu inaugurer une rue portant son nom. Donc cette histoire était bouleversante. Au rez-de-chaussée, cette cérémonie, et au premier étage, l'ouverture du colloque. Jacqueline Cluche est une femme formidable qui a présidé par le passé l'amitié judo-chrétienne de France. Et elle n'a pas oublié, elle, que Fleck a fait partie, avec Jules Isaac bien sûr, avec Kaplan, des fondateurs de l'amitié judo-chrétienne de France. Et je crois qu'on doit aussi rappeler la dette que nous avons envers lui dans la construction d'un lien apaisé avec nos concitoyens chrétiens. Ça s'est pas fait naturellement. Il a fallu la guerre, le traumatisme de la guerre, l'héroïsme de sœurs, de pères, d'évêques, de simples croyants, de pasteurs qui ont sauvé trois quarts des Juifs de France, les Justes. Je repense à Mgr Saliège, Mgr Théas, qui en août 42 lance cet appel à « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangers sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux ». Ce réveil des consciences chrétiennes, comme on l'appelait, de l'été 42, a amené des hommes et des femmes à prendre des risques incroyables pour sauver des Juifs et sauver trois quarts de la communauté juive de France. Eh bien, après la guerre, il y a cette solidarité qui cherche à se concrétiser, il y a la conférence de Selisberg en 47 en Suisse, et puis on crée les amitiés judo-chrétiennes. On, Edmond Fleck, Jules Isaac, Kaplan, Marou, du côté chrétien, des gens qui espèrent en l'avenir, qui osent faire ce pas dans l'inconnu qui est le pas de la fraternité.
On comprend de ce que vous dites que cette vie avec Fleck, pour vous, a commencé avec le livre que vous avez évoqué, avec les idées que vous avez retenues de cette lecture. Mais je me suis demandé, de l'autre côté, du côté de Fleck, et je reprends ici vos mots, qu'est-ce que chez lui a rendu possible une telle compréhension à la fois précise, clinique, juste et parfaitement incarnée, passionnée, presque évidente du judaïsme?
Je vais vous dire, j'ose pas employer le mot prophétique, même si le seul roman qu'il écrit s'appelle « L'enfant prophète ». Mais il a une démarche quasi prophétique, c'est-à-dire de recherche de soi. Il est percuté par une nouvelle qu'il découvre dans le cahier de la quinzaine de Peggy. C'est une nouvelle d'un auteur anglais qui s'appelle Israël Zangwill. Et la nouvelle s'appelle « Khadgadia ». Khadgadia, c'est le dernier chant qu'on récite le soir de la Pâque juive. Et cette nouvelle, elle est terrible, en fait. C'est un jeune juif de Venise, complètement déjudaïsé, absolument, totalement, radicalement déjudaïsé, qui vient rendre visite à ses parents, à Venise. Mais il est tellement loin de tout qu'il ne sait pas que nous sommes la soirée de Pâques. Et il arrive dans sa famille, c'est la soirée de Pâques, mais il se met à table. Sans arrêt, le père lui fait sentir qu'il n'est plus à sa place à la table juive de ses parents. Autrement dit, tu n'es pas assez juif, mon fils. Mais lui, dans le monde, il sait qu'il est trop juif. Malgré tous ses efforts pour ne plus être juif, on le renvoie toujours à sa judaïté. Donc pour le monde, il est trop juif. Pour ça, à la table de ses parents, il n'est pas assez juif. Il décide de se suicider. Ça fait un choc à Fleg. Et il a une admiration pour Zangwill qui lui fait découvrir le judaïsme du ghetto. Ce judaïsme du shtetl. Pas encore le ghetto, disons, mais le shtetl. Ce judaïsme authentique des chassidim, du nigoun, de la chaleur. Judaïsme de la joie. Moins corseté que ce judaïsme franco-suisse qui est le sien, au fond. Il dit, moi, ça ne sera pas mon destin. Moi, quitte à ce qu'on me renvoie toujours à ma judaïté, autant savoir ce que je suis. Et il, de mon point de vue, il a le même cheminement qu'Avraham. Oui, Avraham, le patriarche, qui est un fils d'idolâtre, de fabricant d'idoles, c'est pas juste idolâtre, dans un monde absolument, totalement idolâtre. Et Avraham, par sa réflexion, comprend qu'il y a un Dieu qui pilote le monde. Fleg, c'est la même chose. Il va retrouver, mais pas un judaïsme éthéré, culturel, non. La Torah, c'est-à-dire la Bible, les prophètes, les psaumes, la Mishnah, le Talmud. Le Talmud, c'était pas la mode à l'époque. Il va rentrer dans ses textes par tant et tant de portes, et quand il trouve pas les portes, il les fabrique. Il va traduire, il va apprendre l'hébreu, puis l'araméen, pour traduire lui-même les textes, quand les traductions ne lui conviennent pas. Lui, il veut une langue plus proche du texte, de la tessiture du texte, de la rugosité du texte. Donc, de mon point de vue, qu'est-ce qui le ramène ? L'appel du texte. L'appel de lui-même. C'est pour ça que, quand vous avez lu cette première page, je crois qu'on cherche parfois à aller à la rencontre de mères infinies, en oubliant que la mère la plus infinie qu'on côtoie, c'est nous. Donc il va chercher en lui-même ce qu'il est.
Si la question du judaïsme qu'il redécouvre et auquel il appelle à la Renaissance est au centre de sa réflexion, ce judaïsme s'articulait pour lui essentiellement avec la République. Vous écrivez « République et judaïsme, même combat ». De par votre filiation avec Fleg, on comprend que c'est aussi votre combat depuis toujours et sans doute aussi particulièrement en tant que grand rabbin de France, Raïm Korsia.
Je dirais que je récidive parce que j'avais écrit... La biographie du grand rabbin Kaplan, qui est pour moi le chantre absolu du franco-judaïsme. Fleg, c'est le pendant laïque. Absolue convergence de la vocation du judaïsme et de la vocation de la France. Et il faut lire les textes des rabbins français pendant la Première Guerre mondiale, où au fond, nous, la France, nous étions la Jérusalem qui allait glorieuse, qui allait écraser l'orgueilleuse Babylone. Mais je vous rassure d'ailleurs, les rabbins allemands, on avait autant à notre égard, puisque pour les rabbins allemands, la Prusse était, enfin l'Allemagne était la Jérusalem lumineuse et glorieuse qui allait défaire l'orgueilleuse Babylone que nous étions, nous, les Français. Et d'ailleurs, lisez un livre à pleurer et en même temps bouleversant qui s'appelle « Qu'il est beau et agréable de mourir pour sa patrie ». C'est un ancien ambassadeur d'Israël en France, je crois que s'appelle Yigal Palmor, qui avait écrit ce livre qui raconte l'histoire de deux soldats juifs, un Français, un Allemand, confrontés tous les deux pendant la Première Guerre mondiale, confrontés tous les deux à l'antisémitisme de leur armée et de leur société, tous les deux amoureux d'une fille, et dans cette quête à la fois de l'amour de leur patrie, de l'amour de leur aimé, comment ils se construisent, comment ils avancent, comment ils sont eux. Et c'est un livre vraiment bouleversant. Mais Fleg lui incarne cela avec une particularité unique, partagée par Kaplan, et que moi je revendique. C'est un franco-judaïsme absolu, donc c'est la même espérance, mais sioniste. Vous voyez, dans le rabbinat à l'époque, c'était impensable d'être sioniste. D'abord, il n'y avait pas d'État d'Israël en tant que tel. Kaplan est le seul à considérer que c'est important qu'il y ait un établissement de juifs en Palestine mandataire. En fait, sur la terre de nos ancêtres, sur la terre pour laquelle nous disons année après année à la soirée de Pâques, juste avant de chanter Chag Gadiah, ce chant dont je parlais tout à l'heure, l'an prochain à Jérusalem. Et donc, Kaplan est en but, à la rage, il n'y a pas d'autre mot, de certains de ses rabbins. Il n'est pas grand rabbin de France à l'époque, il est rabbin à Mulhouse, puis à la rue Notre-Dame de Nazareth, puis à la Victoire. Mais il se bagarre, par exemple, avec Liber, le grand rabbin Liber, qui était directeur de l'école rabbinique, qui a fait une guerre, une première guerre mondiale incroyable, héroïque. J'ai retrouvé d'ailleurs les carnets de Liber pendant la première guerre mondiale. Il avait un travail de chien avec le aumônier. Il devait annoncer aux familles le décès de leurs enfants, leur mari, et noter où était le corps. Parce qu'on enterrait sur place. Les familles ont dû batailler plusieurs années après la guerre pour pouvoir faire rapatrier les corps, c'était pas évident. Et lui, il devait faire ça, ça l'a traumatisé. Mais pour lui, et pour le rabbinat de l'époque, pour le judaïsme de l'époque, si vous voulez, c'était pratiquement le principe de double allégeance qui apparaissait. On ne peut pas trouver bien que des juifs s'installent, des juifs à s'installer en Terre Sainte, en Israël, si on est français. Mais Kaplan n'y voit aucun problème, et flègue. Il voit même une façon d'être plus encore français. Parce que c'est la même espérance de liberté, d'aspiration à ouvrir encore une fois l'universel.
Alors vous venez de parler de militaires. Flegg fut aussi un militaire engagé.
C'est étonnant.
Oui.
C'est étonnant parce qu'il est suisse au départ.
C'est ça. Mais il est engagé pour la France. Alors il ne pourra pas le faire, il le fera dans la Légion étrangère. Comment ce passage dans l'armée a-t-il contribué à sa formation intellectuelle et existentielle? Quelle valeur en a-t-il retenu? Et son exemple est essentiel, semble-t-il, pour l'aumônier en chef des armées du culte israélite que vous avez été. Et j'ai beaucoup aimé dans votre livre l'hommage que vous faites, en passant, mais c'est important, au rabbin Abraham Bloch. Une histoire qui est comme un paradigme de l'enseignement et l'engagement de Flegg.
Oui, Flegg, donc, né en Suisse. Donc, il vient en France, il fait ses études normales sup, puis à la Première Guerre mondiale, bon, il a participé quand même à beaucoup de combats intellectuels autour de l'affaire Dreyfus, etc. Et à la Première Guerre mondiale, il décide de s'engager, et donc il n'est pas français, donc il s'engage dans la Légion étrangère. Il fait une armée incroyable. Malgré tous ses efforts, chaque fois qu'il veut être ramené au front, il est utilisé après comme traducteur. J'ai accédé, j'ai eu son dossier militaire, c'est impressionnant. Les appréciations... En fait, vous vous demandez si c'est la même armée que celle de Dreyfus. Parce que les mots, notamment d'un marin qui dit « on a rarement vu un patriotisme aussi ardent ». J'aime ce mot. Ardent, c'est quelque chose qui brûle en vous, qui vous bouge littéralement. C'est Flegg. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que effectivement, pendant la Première Guerre mondiale, l'image qui reste et qui va, par exemple, transformer quelqu'un qui n'est pas l'écrivain le plus philosémite qu'on ait eu dans l'histoire de France, Maurice Barrès, qui va parler, qui va raconter dans son livre qui s'appelle « Les diverses familles spirituelles de la France » qui est de 1917, la guerre n'est même pas encore finie, diverses familles spirituelles de la France, qui racontent donc cette histoire du grand rabbin Avraham Bloch, qui le 29 août 1914, à Tintru, dans les Vosges. Il faut savoir que on oublie ça. Pour nous, la guerre de 14, ce sont les tranchées. Les poilus, les tranchées. Non, c'est faux. C'est après. Août 14, c'est encore une guerre de mouvement. Le 22 août, par exemple, c'est la journée la plus meurtrière de la guerre. 32 000 morts. Dont, d'ailleurs, mon arrière-grand-oncle qui est mort le 22 août 14. Mais Bloch meurt le 29 août 1914 à Tintru dans les Vosges. Et il meurt en étant sur le front. Hein. Il est au col d'Anozel.
Et il est aumônier.
Il est aumônier, il est au col d'Anozel. Il aurait pu éviter. Il a 5 enfants, il avait été grand rabbin d'Alger. Il est revenu à Lyon parce qu'il y a eu un attaque contre lui. Et donc, sur le front, il voit un soldat mourant qui ne voit pas un rabbin, il voit un aumônier. Il lui dit « Je voudrais un crucifix ». Il va lui chercher un crucifix, il lui présente le crucifix. Ils meurent tous les deux sous les obus. Ça va bouleverser tout le monde. Et Barrès va parler dans ce livre d'un geste absolu de fraternité française. C'est-à-dire que Flegg voit ce qui va servir de base à l'une de ses pièces de théâtre les plus bouleversantes qui s'appelle « La maison du bon Dieu », 1921. Ça raconte l'histoire, vers la fin de la guerre en Alsace, d'un curé, d'un pasteur, d'un rabbin et d'un musulman. Pas un imam, parce qu'il n'y avait pas d'aumônier musulman à l'époque. Il y avait des soldats musulmans, puisque c'est pour rendre hommage à leur engagement que la France a construit la mosquée de Paris, par exemple. Dans sa pièce, il y a cette rencontre dans une maison en Alsace, réquisitionnée. Et il fait dire au prêtre la fraternité que nous avons été capables de construire dans la souffrance et la boue des tranchées, pourquoi ne serions-nous pas capables de la vivre dans le bonheur de la paix retrouvée ? Autrement dit, on s'est rencontrés dans des souffrances. Capitalisons là-dessus pour construire la France de demain. Voilà le credo de Flegg.
Alors, je m'appelle Wajdi Mouawad. Dans cette aventure, je suis metteur en scène. Je vais mettre en scène donc, l'opéra Œdipe de Georges Ionescu. Alors, dans cet opéra, ce qui est exceptionnel, c'est en fait, on raconte l'histoire d'un être humain, d'un homme, qui est Œdipe. Et contrairement à la pièce de Sophocle, qui se concentre sur un épisode de la vie d'Œdipe, c'est-à-dire au moment où il va mener l'enquête et découvrir finalement qu'il est l'assassin de son père et que donc il est incestueux avec sa mère. Dans l'opéra de Ionescu, on a toute la vie d'Œdipe, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc on a une histoire, on a l'histoire d'un être humain. C'est ça qui est très beau. On a l'histoire d'une vie. Et la vie d'un être tragique, puisque Œdipe n'aurait pas dû naître.
On vient d'entendre l'extrait d'une interview de Wajdi Mouawad, datée de 2021, qui parle de l'opéra de Georges Ionescu, intitulé Œdipe. On ne l'entend pas dans l'extrait, mais le livret est d'Edmond Flegg. Et je crois que Wajdi Mouawad a parfaitement compris l'enjeu de ce livret. Non pas un épisode de la vie d'Œdipe, mais toute sa vie, un arc narratif complet, ce que Flegg fera pour d'autres personnages comme Salomon, Moïse ou encore Jésus. Flegg aimait les histoires qui prennent leur temps et le choix d'un mythe devenu universel comme Œdipe n'est pas anodin, Chaim Corsia.
Oui, il a fait des livrets d'opéra, il a fait 3 biographies bibliques fondées profondément sur le Midrash. Et puis plus que des biographies, il a fait cette œuvre qui est une forme d'opéra. D'ailleurs, c'est étrange parce que il présente la pièce non pas comme un moment de la vie, mais comme quelque chose qui serait la vie entière d'Œdipe repliée sur quelques moments. C'est étrange. C'est ce qu'il a voulu faire. Je crois que profondément, c'est ce qu'il a voulu faire à la fois dans cet opéra, mais également dans son anthologie du judaïsme. Comment représenter le judaïsme, non pas en racontant ce qu'il est, mais en mettant en disposition les textes qui le rendent vivant, que ce soit, encore une fois, la Bible, les prophètes, les psaumes, le Talmud, la Mishnah, que ce soit les sages du Moyen-Âge, que ce soit les fabulateurs, que ce soit le chassidisme, que ce soit les mitnagdim, bref, il va jusqu'à Pierre Masse, je cite dans mon livre. J'ai la certitude qu'il a trouvé comment condenser tout ce qu'est le judaïsme en quelques textes, comme il l'a fait dans l'opéra, pour la vie intégrale d'Œdipe. Et d'ailleurs, la dernière phrase était assez bouleversante pour un enfant qui ne devait pas naître. Vous savez que c'est exactement comme ça qu'il va dédicacer son livre de 1927 qui s'appelle « Pourquoi je suis juif » à mon petit-fils pas encore né. Et celui qui fait en 48, après la guerre, qui s'appelle « Nous de l'espérance », il le dédicace à mon petit-fils qui ne naîtra jamais. Parce qu'il avait 2 garçons. Le premier est mort parce qu'il voulait s'engager pour la France, pour combattre. Et la commission de réforme lui dit qu'il est malade, qu'il n'est pas apte à combattre. Il est tellement défait de cela qu'il se suicide. Et le deuxième combat pour la France et meurt dans les combats de 40. Qu'on occulte, vous savez, les combats de 40, on ne veut jamais en parler. On a eu 100 000 morts. Ça a été des combats héroïques. On parle toujours de l'avancée de Montcornet, de Gaulle. Mais il y a eu des combats partout en France qui ont été héroïques et qui ont fait plus de 100 000 morts. Il était dans ces 100 000 morts, donc ses 2 enfants sont morts, et sa belle-fille qui était enceinte était malade, et il a dû faire, lui, un arbitrage en disant « il faut sauver ma belle-fille plutôt que l'enfant pas né encore ». Et donc il fait le choix et elle perd l'enfant. Donc il n'y aura pas de petits-enfants. Donc d'une certaine manière, presque en anticipant, il raconte l'histoire d'un enfant qui aurait dû ne pas naître dans cet opéra, comme lui, ses enfants et ses petits-enfants, ses enfants naîtront mais ne donneront pas d'enfants et ses petits-enfants ne naîtront pas, ce qui nous oblige, vous et moi, chacun, chacune d'entre nous et de vos auditeurs, à se considérer comme ses petits-enfants potentiels. Et c'est peut-être ça, pour moi, l'importance de le remettre aussi à l'esprit des gens. Il a permis de nous construire. Il a anticipé sur tant et tant de choses dans notre société. Quand vous regardez, par exemple, ses engagements, entre les deux guerres, il a compris qu'il fallait réinvestir le champ de l'engagement, ce qu'il avait vécu dans les armées, pour la jeunesse. Donc il va fonder, s'engager, présider les éclaireurs israélites de France, en faisant vivre, par exemple, quelque chose qui est essentiel, ce qu'on appelle dans les EI, les éclaireurs israélites, le minimum commun.
Oui.
C'est un truc simple qui permet à diverses composantes du judaïsme de vivre sur un camp de vacances ensemble. Il va le faire après la guerre, avec les amitiés judéo-chrétiennes, c'est-à-dire comment construire un possible avec nos concitoyens. Et il va le faire en 57 avec le colloque des intellectuels juifs de France. Une fois qu'il a posé l'idée d'engagement, l'idée de vicinalité, c'est-à-dire d'une vicinalité sereine, alors il peut penser la société, l'ensemble de la société, pas pour les juifs, l'ensemble de la société. Et c'est le colloque des intellectuels juifs de France, avec Alperin, avec Lévinas, mais c'est lui qui invite la première année.
Avec Alperin, avec Lévinas, avec Léon Algazi, avec André Néer, enfin tant d'autres,
mais
qu'on n'aurait pas eu
c'est
sans...
L'écho, non, c'est l'écho, Néer, évidemment, oui. Mais c'est l'écho, en fait, ce que fait Flegg, c'est l'écho de ce que fait le Conseil national de la Résistance, qui, au cœur de la nuit, il le dit, la nuit la plus obscure est une annonce de l'aube qui vient. Le Conseil national de la Résistance, en 43, rue du Four, se réunit, c'est en pleine guerre, pour dire quoi ? Quelle société on veut construire après ? Et il rêve d'une société, la sécurité sociale, l'intéressement, la participation. Et il rêve cette société, et on vit dans cette société aujourd'hui. Nous sommes le résultat de ce rêve. Georges Lévite, par exemple, au Chambon-sur-Lignon, en pleine guerre, caché par les héros autour du pasteur Trocmé, du pasteur Haï, héros du Chambon, et tout le plateau d'ailleurs. Georges Lévite fonde ce qu'on appelle l'école des prophètes. Il rêve le réenchantement de la communauté juive française après la guerre. Ce qui donnera ce qu'on appelait l'école d'Orsay avec Manitou, rabbin ashkenazi, qui de son nom scout était Manitou. Donc vous voyez, Flegg a quelque chose, c'est pour ça que je dis il a quelque chose de prophétique. Il n'attend pas que les choses aillent bien pour dire « bon, bah, c'est formidable ». Il envisage déjà, il projette un rêve qui devient un horizon, c'est ce que disait Max-Paul Fouché. Le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite, c'est le songe. Il faut rêver. Et il rêve des possibles, et ensuite il se donne les moyens de les construire.
Chaim Korsia, votre livre se termine par un coda, une lettre du ciel, comme si Edmond Flegg lui-même avait appris de l'au-delà que vous avez écrit un livre sur lui. Racontez-nous ce message d'outre-ciel.
Ah, c'est quelque chose d'assez étonnant. J'ai un de mes amis, c'est le docteur Ariel Toledano, qui m'appelle en me disant « Écoute, j'ai appris par hasard incroyable que tu faisais un livre sur Flegg. Et ce matin, en allant de chez moi à mon cabinet, je passe devant le 1 quai aux fleurs. 1 quai aux fleurs, c'est là où Flegg habitait. »
Avec Yankelevitch.
C'est incroyable. Mmh. Yankelevitch qui habitait là, qui est celui qui a dit « il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de poésie après Auschwitz », habitait dans le même immeuble que celui qui disait « quoi qu'il y ait, quoi que nous subissions, j'espère l'espérance. J'espère l'espérance. » Je ne sais pas comment se passaient les réunions de copropriétaires, mais enfin, en tout cas, ça devait être passionnant. Et donc, mon ami passe devant, et sur le parapet, en face du 1, en face du 1, il y a un livre posé. Il regarde ce livre.
Chez un bouquiniste ou
non,
posé ?
Non, posé. Un livre posé. Posé, sur le parapet. Comme souvent, les gens laissent des livres pour les transmettre au vent. Ou Marc Ayam dirait ça. Transmettre au vent. Et il prend ce livre, c'est un livre de 1955 d'un journaliste qui s'appelle Lost, qui demande à des intellectuels de l'époque, hein, Malraux, Mauroy, Mauriac, Claudel, Flegg, « Il vous reste 15 minutes à vivre, à quoi pensez-vous ?» Et il me dit « Je t'envoie les 3 pages de Flegg. » Bah, il m'envoie ces pages. Et je trouve dedans tout ce que j'avais imaginé étant le credo profond de Flegg. Oui, cette phrase merveilleuse, « J'espère l'espérance. » Parce qu'il y a un effort à faire. Au fond, la grande erreur que les gens font, c'est croire que l'espérance, c'est de l'optimisme. Pas du tout. Mais c'est ridicule. C'est même risible. L'optimisme, c'est béat, solitaire, et vous attendez quoi ? L'optimisme, c'est... comme dans La Haine, le film La Haine, celui qui tombe, et à chaque étage, les gens l'entendent dire « jusque-là, ça va ». Oui, à un moment, ça ira beaucoup moins bien. Ça, c'est l'optimiste. Celui qui espère, il voit le monde. Il est capable de voir le monde. C'est ce que dit Nerval. Nerval dit « la mélancolie, cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est ». Oui, mais comment guérir de cette mélancolie qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont ? De ne pas nous enfermer dans le réel tel qu'il est, mais de nous projeter dans un avenir qu'on peut transformer. Parce que, 1, on se transforme soi-même. 2, l'espérance, elle est vécue avec les autres. on instille l'espérance chez les autres, dans la société. La vocation du judaïsme, c'est ça. On dit Or Lagoïm dans la Bible. Or Lagoïm, une lumière pour les nations. Bon, calmons-nous. La lumière, c'est l'espérance. Parce que si on avait dû désespérer, on aurait commencé à désespérer quand les Hébreux se trouvent devant la mer Rouge. Vous avez devant vous la mer, derrière vous 600 chars égyptiens qui arrivent à fond de train, c'est plutôt carbonisé. Bon. Et ben Moïse leur dit, n'ayez pas peur. Dieu combattra pour vous. Tout va bien. En fait, celui qui est capable d'espérer, et c'est ce que j'ai trouvé dans ces trois pages que j'ai mis comme une sorte de clôture qui ouvre la véritable transmission de Flegue envers nous, c'est n'abdiquez jamais de votre force de l'espérance.
Merci Chaim Korsia pour cette conversation lumineuse. Les auditeurs pourront poursuivre et approfondir la découverte d'Edmond Flegue en réécoutant d'une part l'émission de la semaine dernière avec Jacqueline Cuche et Hector Sabot et en lisant votre très bel ouvrage intitulé « Ma vie avec Edmond Flegue ». C'est aux éditions Gallimard. Merci encore Monsieur le Grand Rabbin.
Plaisir.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui, Lucas de Rhodes, à la réalisation, Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.